C'était bon.
Bon.
Vous êtes bien sûr Radio Canu.
Vous êtes toujours
au son de point de.
Bam bam bam.
Et c'est la fin de
l'émission. Et c'est la fin, je crois, si on regarde le.
Essayez d'être rapide.
On a failli s'endormir.
C'était la place au.
Canu Info.
Canu Info. Mm-hmm. Alors, vous avez pu entendre des textes de issus du recueil Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, de la poésie et du féminisme des États-Unis. Voilà, donc des textes de plus spécifiquement Assata Shakur, militante africaine-américaine, membre du Black Panthers, Audre Lorde, bien sûr, immense poétesse. Qui écrit depuis 1962, mais en fait elle est seulement traduite en France aujourd'hui, donc ça fait quand même une plombe. Donc on l'attendait impatiemment. Et Jen West, activiste du collectif féministe séparatiste Cell 16, qui développe des formations de l'autodéfense féministe. Voilà. Et vous, qu'avez-vous lu, les amis?
Deux épisodes d'Oumaru et en CPI de matin, première page d'un journal de Corée qui comprend quatre petits morceaux, comme celui-là.
J'ai lu Le Monde à corriger de Mireille Lebozic. Voilà, plein de petits extraits sur ce qu'elle pense du monde. Il y en a qui sont bien, d'autres bien. Voilà. Et une improvisation de méditation bonbon.
Tout à fait, c'était le bienvenu.
Des extraits de Spinoza in China de Marc Perrin.
Et des extraits de La vie, l'amour, la mort, le vide et le vent de Roger Gilbert Lecomte. Voilà.
Vous retrouverez tout ça en podcast et sur
tout
internet, plus précisément
sur les internets.
On vous laisse et on vous retrouve dans deux semaines. À bientôt. On vous laisse avec le Canu Info. Ciao, ciao.
Tenez-vous chaud.
Ciao, ciao.
Et vous étiez sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, avec en premier morceau Amilcar Face to Face, ensuite Messaline Zèle de Poulet, et enfin Hunger in the Reward System avec Shuffle.
dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la fois.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Ce lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir. Il est 19h06 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du lundi. Du lundi, et donc à l'international. Aujourd'hui, on parlera de ce qui se passe en Irak et notamment donc des différents impérialismes contre les masses populaires. En Irak, au national, on reviendra sur le retrait provisoire de l'âge pivot, bien sûr. On parlera encore des grèves avec les avocats qui sont rentrés en grève et pas qu'un peu. On enchaînera avec une petite action à Bordeaux qui a mis tout noir un commissariat. On continuera avec une victoire des sans-papiers en lutte de Chronopost à Alfortville. Et au national toujours, on finira avec un petit reportage sur les femmes de chambre en grève à Paris. Au local, on reviendra sur quelques moments forts de la mobilisation à Lyon, parce que oui, il y en a, et on terminera avec une interview de camarades de la CGT Vinatier, des travailleurs donc des Vinatiers. Et donc on commence tout de suite, et je me fais ma propre transition, non, avec l'international, donc la situation en Irak. Puisque, alors on vous en a déjà parlé depuis octobre au moins 4 ou 5 fois, mais on revient un petit peu dessus, puisque la situation empire pour le mouvement. La situation est très complexe et elle place les masses populaires irakiennes en étau entre les impérialismes américains et irakiens, avec en face d'elle un régime qui a été mis en place par l'intervention américaine de 2003, on le rappelle, hein, qui est un pouvoir à majorité chiite, autoritaire, ultra-corrompu, ethno-sectaire, donc c'est-à-dire qu'il réprime systématiquement les minorités religieuses et en priorité les sunnites, et donc qui applique depuis 2003 des politiques économiques ultra-libérales, et qui d'ailleurs était l'un des enjeux de l'intervention américaine, au-delà même du pétrole. Depuis octobre donc, il y a un mouvement populaire, une révolte sans précédent, vous en a déjà beaucoup parlé, qui a fait beaucoup de morts, plus de 300 morts, au moins 10 000 blessés. Cette mobilisation a malgré tout poussé, entre autres, le Premier ministre Adel Abdelmadi à démissionner, mais elle n'arrive pour le moment pas, évidemment, à enlever, éradiquer l'impérialisme américain et occidental. Ce mouvement est d'ailleurs, comme au Liban, un mouvement multiconfessionnel qui a adopté très vite des positions anti-impérialistes contre les États-Unis, mais également contre l'Iran. D'une part, régulièrement, des affrontements militaires ont lieu en Irak entre les États-Unis et l'Iran via ces milices en Irak. L'histoire de la politique impérialiste américaine en Irak se caractérise d'ailleurs par des crimes de guerre,
L'occupation, la destruction, le blocus économique et l'utilisation d'armes mortelles. C'est d'ailleurs en partie à cause de l'intervention américaine de 2003 que Daesh en Irak s'est construite, puisque les cadres militaires de Daesh en Irak sont issus de l'armée de Saddam Hussein. L'Iran, d'autre part, dictature fondamentaliste chiite, dont le régime est basé sur des exécutions sommaires, des assassinats, l'esclavage des femmes, multiplie les crimes en Irak via ses milices, notamment la force Al-Qaïda. Donc notamment contre le soulèvement populaire en cours. La toute récente intervention impérialiste commanditée par Trump, qui a fait assassiner le dirigeant charismatique de ses milices, donc Qassem Soleimani, ne va faire qu'empirer la situation. L'impérialisme américain et iranien sont les pires ennemis du soulèvement en cours et de toutes les forces révolutionnaires et progressistes en Irak. Les partis politiques et leurs milices irakiens, avec la contribution de l'Iran d'une part et de l'armée américaine d'autre part, veulent anéantir cette révolte en militarisant la situation et ainsi en tirer profit dans l'intérêt des forces qui leur sont associées. En France, Macron, comme le reste de l'Occident, des puissances occidentales, se range derrière l'impérialisme américain. En parallèle, certaines forces de gauche, voire d'extrême gauche, dénoncent à raison les actes récents américains et moins récents américains en Irak, mais soutiennent, sous couvert d'anti-impérialisme, le régime iranien et les récentes manifestations pro-régime en Iran. Pour nous, c'est très clair. Aucun impérialisme n'est légitime. Seul le soutien inconditionnel à la révolte populaire qui a lieu depuis octobre, qui est multiconfessionnelle, pour le droit des femmes, contre les impérialismes américains et iraniens, contre les politiques ultralibérales et la corruption du régime, seul ce soutien inconditionnel à cette révolte n'a de sens.
Et on écoute tout de suite la rumeur. Je sais pas ce qu'on écoute en fait.
Un morceau effectivement du groupe La Rumeur, aussi en hommage à l'assassinat de Cédric à Paris. Donc un morceau anti-flic classique.
Le champ est libre comme l'air, toujours le même calibre, mes chers confrères, dans la main pour tuer une puis dissuader quelques fils de putain en travers de notre chemin. La coupe est pleine où on crache dans la soupe et sur les sales groupes et que quelqu'un se la ramène. J'ai toujours pas retrouvé le sourire, ni ce dance floor de salope, du rap et du R&B non-stop. Ici le style autant de scrupules qu'une maison d'arrêt qui brûle, c'est dire comme ça craint le pire, comme ça sert à rien de nous ralentir. Je peux encore vous surprendre, car aucune stèle sera assez grande pour qu'ils se branlent sur nos séquelles, comme des poucelles se rendent complices des parties baltrapes de la police. En passant sur peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trois rats. Un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée s'est coincée entre les mailles de mon filet. J'y ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier. Avec tous les bravos du 9 place Beauvau. Le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise. Ça me changera des frises et de la bouillie pour chat. Concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargées de haine. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major.
Encore du rap de fils d'immigrés étrangers à leur code, pourtant si familiers aux flics et à leur brutale méthode. Au rang des non-alignés, qualifiés d'infâmes diffamateurs, encore et trop d'honneur qui nous distingue des amateurs. C'est la rumeur, quatre têtes à abattre, que les censeurs se rassurent, y a pas que la mesure qu'on va battre. 2004, plein de haine, même interdit d'antenne, des centaines de détracteurs au cul que mon son préoccupe. Chite ces braises pas éteintes qui crament dans leurs enceintes ou dans les plaintes de ces fils de timbre, assis au banc des accusés, puisqu'absent au banc des priorités. La parole arrachée par les minorités.
Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrant de bavure, invoquent le coup du sort, et nous convoquent leur état-major.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et il est 19h15 et c'est l'heure du Canu Info.
La suite.
Et la c'était suite. Du coup un morceau du groupe La Rumeur qui s'appelle Port, qui militait déjà contre les violences policières, qui sont malheureusement encore d'actualité, puisque depuis la rentrée, la police a encore tué. Elle a tué Cédric, donc livreur de 42 ans, qui... pendant 16 heures de travail, a été, après une arrestation, tué, et que ça remet en cause cette technique policière de la clé d'étranglement au sol qui avait déjà tué Adama Traoré. Et donc, voilà, ce week-end à Paris, une grande marche avait été organisée en sa mémoire. Et voilà, il s'ajoute sur la longue liste des victimes de violences policières.
De la police. On enchaîne donc avec ce retrait vite fait de l'âge pivot.
Et oui, c'est la grande annonce du week-end, hein, le retrait de l'âge pivot. Après 38 jours de grève, des centaines de milliers de manifestants chaque jeudi, Édouard Philippe a annoncé ce samedi le retrait de l'âge pivot. Alors bien sûr, les bureaucrates de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA se sont empressés de crier victoire et de répondre positivement à la demande d'Édouard Philippe, à savoir négocier 12 milliards d'économies sur le dos des travailleurs et travailleuses. Alors, comme c'est pas très simple de s'y retrouver dans ce marasme, on s'est dit que c'était bien de comprendre un peu mieux de quoi on parle. Ça permet aussi de comprendre à quel point tout ça n'est que de la poudre de perlimpinpin. Donc l'âge pivot, hein, cette mesure qui va être tirée, si vous avez bien suivi, c'est ce qui doit permettre d'arriver à l'équilibre des caisses d'ici 2027. L'idée du gouvernement, c'était d'augmenter l'âge de départ à la retraite à taux plein de 4 mois chaque année pour économiser 12 milliards d'euros. Ça ne change rien à l'âge légal de départ à la retraite qui reste de 62 ans, mais pour toucher sa retraite complète, il faudra attendre 64 ans à l'horizon 2027. Bon prince, Édouard Philippe propose donc aux partenaires sociaux de trouver eux-mêmes les 12 milliards d'euros sans toucher, bien entendu, aux cotisations patronales. Donc en gros, cette mesure, elle est juste provisoire. Hein. Son retrait n'implique pas grand-chose pour l'exécutif. Elle est même un fusible bien pratique à faire sauter aujourd'hui. C'est une mesure d'autant moins importante que cela ne change rien à l'âge d'équilibre qui est toujours prévu par le gouvernement pour 2037. Il sera plus possible à ce moment-là de partir à la retraite à taux plein à 62 ans. Alors, l'âge d'équilibre, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait ce qui va venir remplacer l'actuelle durée de cotisation. C'est donc à l'âge à partir duquel il sera possible de partir à la retraite à taux plein, et son calcul, il pourra être indexé sur l'espérance de vie, mais aussi sur la pénibilité. Ça, c'est aussi une des nouvelles annonces d'Edouard Philippe. De toute façon, c'est qu'un détail de la réforme que nous combattons dans son ensemble. Cette histoire de concession, c'est un bon foutage de gueule. Édouard Philippe, il essaye de jouer, comme on s'y attendait, sur la division syndicale. Il est bien aidé par l'équipe des Laurent, hein, Berger et Escure pour les intimes, respectivement patron de la CFDT et de l'UNSA. Alors en fait, on s'y attendait bien, hein, depuis l'arrivée de la CFDT dans le mouvement. On rappelle qu'elle s'est lancée dans la bataille à l'annonce justement de cette mesure de l'âge pivot le 11 décembre. C'est une sacrée opportunité pour le gouvernement de pouvoir ensuite la retirer. La ficelle semble un peu grossière, mais elle ne nous étonne pas tellement quand on connaît les trahisons successives de la CFDT. C'est d'ailleurs Laurent Berger lui-même qui avait proposé la conférence sur l'égalité et le financement des retraites que Édouard Philippe s'est si promptement approprié. Donc, je rappelle que la CGT, FO, FSU, Sud, enfin l'intersyndicale appelle toujours à 3 journées de mobilisation, mardi, mercredi et jeudi, que l'UNSA RATP a rappelé son engagement à se battre pour le retrait pur et simple de la réforme. Dans les boîtes, les hôpitaux, les gares, les dépôts, on espère bien que cela n'entachera pas la détermination de celles et ceux qui luttent au quotidien. On retourne dans la rue dès mardi et vive la grève.
Et donc, puisqu'on parle de grève, on continue avec la grève, cette fois-ci, des avocats.
Ouais, les avocats, le Conseil national des barreaux, qui est l'organisation représentative des 164 barreaux en France, a appelé les avocats à faire grève depuis le 6 janvier, et ils ont appelé à une reconductible jusqu'au 19. C'est une grève inédite, hein, puisqu'on a 100% quand même des barreaux qui sont en grève, ce qui est énorme, c'est même du jamais vu. Les avocats, évidemment, d'abord, ils défendent aussi leur propre régime de retraite autonome. Ils craignent un doublement des cotisations qui passerait à 28% et aussi une baisse des pensions drastique. Mais donc sur ces mots d'ordre, ils ont mis en place un certain nombre d'actions. autour de cette ligne qui est l'annulation à la fois des consultations gratuites et surtout de l'arrêt général de toute délégation, ce qui a eu une conséquence vraiment qui a désorganisé toute l'institution judiciaire avec des milliers d'audiences qui ont été renvoyées. Pour faire un petit historique des actions, mercredi 8, 70 avocats ont jeté leur robe noire devant la garde des Sceaux Nicole Belloubet à Caen, ce qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qu'elle continue à parler, ça, c'était quand même symboliquement très fort. Le matin même à Nice, des avocats avaient bloqué le palais de justice en verrouillant carrément le portail avec un énorme cadenas. Mais le plus spectaculaire, c'était vendredi 10 janvier, où on a carrément vu une mêlée entre gendarmes et avocats au palais de justice de Paris. Du coup, une centaine d'avocats ont tenté de rentrer dans la cour de cassation où se trouvait la garde des Sceaux pour l'audience très solennelle et enfin l'audience de rentrée très solennelle de la cour de cassation. Ça a d'ailleurs eu lieu à une interpellation d'un avocat. À Lyon, plus localement, la totalité des dossiers de plusieurs chambres correctionnelles ont été aussi renvoyés. Toutes les audiences, par exemple, des comparutions sur reconnaissance préalable ont été annulées et renvoyées, ainsi que toutes les audiences en référé. Reste une question évidemment principale, c'est est-ce que les avocats vont réussir à déjouer ce qui est pour l'instant la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire la stratégie de négocier des aménagements secteur par secteur, et surtout les secteurs qui posent le plus de problèmes pour eux, soit sous la forme d'exceptions ou surtout de retardement ou de mise en œuvre progressive de la réforme. Comment est-ce que les avocats vont contourner ce piège-là, cette stratégie-là de négociation locale, comme le gouvernement a pu le faire avec la police, évidemment, parce qu'on avait besoin, mais aussi avec les danseurs de l'Opéra de Paris, avec aussi les personnels navigants des compagnies aériennes. Aujourd'hui, une délégation a été reçue par la ministre, une délégation donc des avocats, hein, par la ministre de la Justice. On n'en connaît pas encore le résultat, on verra. Et d'autre part, cette mobilisation des avocats, elle arrive quand même au bon moment, à un moment où SNCF, cheminots et RATP sont un peu fatigués. Ils annoncent une cadence un peu plus ralentie, un arrêt par intermittence qui va quand même bloquer le trafic pour surtout compenser un peu la perte des salaires. Et d'autre part, elle coïncide, cette arrivée, cette mobilisation des avocats avec la mobilisation d'autres secteurs, des éboueurs, de la Banque de France et des archéologues. Donc voilà, on espère que ça va engager aussi et motiver d'autres secteurs à rentrer dans la lutte et on les soutient.
Et du coup, on va peut-être écouter tout de suite une petite chanson, hein. C'est un remix
C'est un remix, oui, très, très rigolo d'une chanson d'Aurel San.
Qu'on ne salue pas.
Qu'on ne salue pas.
On écoute ça tout de suite.
Ok, je vais parler de la réforme de la justice. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire un discours simple, où je vais dire des choses simples. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Simple, basique.
La justice doit être à côté de chez toi, sinon elle te sert à rien.
Simple.
Trois blabacars pour aller à ton procès, tu t'es fait balader.
Basique.
On veut de la justice de proximité, pas de la justice au rabais.
Simple.
Quand je pense qu'il faut attendre plus d'une année qu'une affaire soit jugée.
Basique.
Combien de saisons de The Voice a maté avant que le juge n'ait décidé.
Simple.
Laura et David vont devoir patienter, sont pas prêts d'hériter.
Basique.
On veut être jugé par les femmes d'honneur, pas par des ordinateurs.
Simple.
Je préfère être relaxé devant un juge, pas prendre du ferme devant un écran. Cette réforme, c'est de la foutre de Ferlin Papin. On va y mettre un point. Manu, t'as pas les bases. Manu, t'as pas les bases. Manu, t'as pas les bases. Manu, t'as pas les bases.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h23 et on parle de l'actualité nationale.
Eh oui, alors à Bordeaux, eh bien, figurez-vous que jeudi, à un moment, ça a été tout noir, ou ça, dans le Comico, tout simplement. Alors, explication. Depuis le début de la mobilisation, les grévistes du secteur de l'énergie multiplient les coupures de courant ciblées, mais aussi les passages en heure creuse pour les plus précaires. La classe, franchement. Ce jeudi 9 janvier, à Bordeaux, la journée a commencé par une coupure d'électricité au niveau de la gare Saint-Jean, revendiqué par la CGT Énergie 33 en soutien aux grévistes de la SNCF. Puis a eu lieu une bien belle manifestation avec plus de 70 000 personnes. Alors effectivement, on n'est pas à Lyon, hein, mais voilà, c'était une belle manif prouvant que la guerre sociale est loin d'être finie à Bordeaux. En fin de manifestation, 4 interpellations ont lieu, dont un militant de la CGT Énergie. Vous voyez venir le truc ou pas ?
250 personnes se réunissent devant le Comico, alors qu'en même temps, la gare Saint-Jean est envahie. Et oui, car à Bordeaux, ils envahissent la gare aussi en fin de manif. Un peu plus tard, en fin de journée, quand il fait bien bien nuit, vous savez, quand il y a vraiment besoin de beaucoup de lumière dans des établissements comme des commissariats, eh bien, une étrange coupure de courant est intervenue dans tout le commissariat principal où étaient gardés à vue les quatre interpellés. Et ouais, fallait peut-être pas toucher un militant de la CGT Énergie, même si, évidemment, cette action, elle, n'a pas été revendiquée. On se demande donc bien qui a pu la faire. Pour la petite histoire, les quatre personnes interpellées ont été relâchées le lendemain sans poursuite. Et c'est tant mieux. Par contre, de manière générale, à l'échelle nationale, la répression contre les actions des grévistes de l'énergie, eh bien, elle s'intensifie. À Orléans également, hein, deux militants de la CGT Énergie ont été interpellés jeudi. Je ne connais pas les poursuites qu'ils encourent, mais en tout cas, cette répression contre les grévistes, eh bien, elle s'intensifie malheureusement.
Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'une victoire d'une lutte de sans-papiers du côté d'Alfortville.
Une belle victoire, ouais. En lutte, ils sont en lutte depuis le 11 juin, donc ça fait quand même un bout de temps. Les travailleurs sans-papiers étaient mobilisés donc devant l'agence Chronopost d'Alfortville, c'est dans le Val-de-Marne, et ils viennent d'obtenir la régularisation de quasi la totalité des 27 salariés, 26 pour l'instant et un dont le dossier n'a pas encore été complètement traité par la préfecture. Pour se rappeler de quoi il est question, ils avaient établi un campement un peu sauvage devant Chronopost afin de dénoncer surtout des conditions de travail intenables, des cadences rapides, le port de colis très très lourd, un travail de nuit pas toujours rémunéré, tout ça pour des salaires minables de maximum 700 euros. Cette grève, elle avait mis au jour surtout l'absurdité de la chaîne de sous-traitance, puisqu'on avait une situation totalement kafkaesque, avec d'un côté Chronopost, dont la maison mère c'était La Poste, dont la logistique était elle-même sous-traitée par De Richebourg, qui lui-même sous-traitait la main-d'œuvre à une société d'intérim. Enfin bon, bref.
Ouais.
Toute cette cascade de sous-traitance, elle entraînait tout un double jeu très pervers avec les sans-papiers, puisque d'un côté, il y avait l'État et surtout le patronat qui profitaient d'une main-d'œuvre exploitable, disponible, ultra précaire et bon marché, et tout en fermant les yeux sur justement les échanges d'identité pour avoir un contrat de travail un peu falsifié. Mais d'un autre côté, dès qu'il y avait un problème ou une mobilisation, il niait toute responsabilité et refusait systématiquement de délivrer les attestations de travail ou la documentation nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour. Bref, n'oublions pas que ces conditions d'exploitation, qui sont malheureusement main courante, ça se dit pas.
Si, complètement.
Monnaie courante plutôt. Main courante, c'est autre chose, mais bon, ça marche aussi.
Un pour et un contre.
Monnaie courante.
Situation d'exploitation qui est donc monnaie courante et qui s'ajoute donc aussi au harcèlement policier quotidien, au risque d'expulsion, au problème de logement. Tout ça qui constitue la triste trame de fond de la politique raciste de l'État.
Et on va continuer de parler de sous-traitance, puisque au mois de décembre, c'était il y a un petit moment, mais il y a eu les vacances entre-temps, on a pu aller interviewer les grévistes, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris, qui sont en grève depuis 180 jours
depuis
aujourd'hui.
Le 18 juillet 2019.
Donc ça fait 180 jours. Et donc, on écoute tout de suite un petit reportage sur leur lutte.
Moi, c'est Keke Rachel. Je suis gouvernante d'étage. Ça fait 16 ans que je travaille à l'hôtel Ibis Les Batignolles, mais sous-traité avec la société STN. Donc voilà, ça fait 4 mois et demi que nous sommes en grève pour des conditions de travail. Une femme de chambre, comme je peux dire, quand elle vient le matin, c'est-à-dire elle commence à 8h30, donc quand elle arrive, qu'elle rentre dans une chambre, elle ouvre la fenêtre, elle fait sortir tout ce qui est sale, et après elle fait le lit. Quand elle finit de faire le lit, d'abord elle met les produits dans les toilettes, les salles de bain, et après elle fait le lit. Et quand elle finit de faire le lit, elle fait la poussière. Quand elle finit de faire la poussière, elle vient nettoyer maintenant les toilettes, les salles de bain et tout. Après, elle passe l'aspirateur et la serpillière. Donc, c'est le rôle aussi de la gouvernante, puisque je suis gouvernante, quand la femme de chambre rentre la chambre propre. Nous, on passe derrière pour vérifier si la chambre est nickel. Et après, on passe à la réception pour louer la chambre au client. Donc voilà, c'est pas un boulot facile, c'est un boulot très physique, très difficile. C'est un boulot qui abîme le corps. C'est un boulot qui paralyse beaucoup les femmes. Donc, il y a d'autres que ce boulot donne la tendinite, le canard carpien, le dos coincé et beaucoup, beaucoup de maladies. Ce n'est pas un boulot facile. Voilà, c'est un boulot qui abîme le corps. Donc, c'est pour ça que nous sommes en grève.
Mal aux pieds!
Mal aux pieds!
Il faut frotter!
Il faut payer!
Il faut payer!
Il faut payer!
Mal au dos!
Mal au dos!
Mal aux pieds!
Mal aux pieds!
Il faut frotter!
Il faut payer!
Il faut payer!
Il faut payer!
Mais en fait, ce qui a réellement déclenché la grève, c'est que les gens qui sont malades, que ce boulot a rendu malades, je vais dire a rendu handicapés, la société a voulu les muter. Parce que croyant que si le médecin de travail vous dit qu'aujourd'hui, comme vous faites 23 chambres, 24 chambres, 40 chambres, et que vu que vous êtes malade, vous avez droit de faire... soit je peux dire 12 chambres, et la société voit que ça ne les arrange pas parce qu'ils perdent de l'argent. Donc ils veulent faire quoi? Ils veulent en fait muter tous ceux qui sont handicapés dans un hôtel de 5 étoiles, 4 étoiles, pour augmenter le nombre du boulot. Donc ça veut dire, quand tu vas là-bas, c'est la mort. Et de là-bas directement, tu vas au cimetière, quoi. Donc ça, ça a déclenché la grève. Et ce qui a aussi déclenché aussi la grève, c'est le nombre de chambres qu'on fait. C'est-à-dire... la sous-traitance, comme je dis, la sous-traitance, c'est la maltraitance. Ils donnent les salariés, ils les mettent en temps partiel. Donc, ils peuvent te donner 4 heures, 6 heures de boulot. Mais en réalité, tu fais 7 heures. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 800 euros, 700 euros, 900 euros. Donc, où va le reste d'argent? Voilà. Donc, ça aussi... on a dit que c'est de l'esclavage. Donc, c'est pour ça que nous dénonçons ça. Et nous disons aussi dans nos manifestations qu'il faut que le groupe Accor nous prenne directement, c'est-à-dire avoir un contrat direct avec l'hôtel pour être mieux traité et pour avoir le meilleur traitement, avoir le respect. Parce que la sous-traitante ne respecte pas les salariés. Le manque de respect, le harcèlement moral, il y en a dans la sous-traitance. Comme je dis partout où je passe, l'hôtel, c'est nous qui faisons l'hôtel. Quand un client arrive, il rentre dans une chambre, c'est propre. Il ne sait pas qui l'a fait. Mais derrière, il y a des mains, c'est des femmes qui le font. Donc, la chambre n'est pas faite comme ça par magie. C'est des gens qui le font. Donc, ces gens ont besoin d'être bien payés et d'être respectés. Parce qu'il y a des clients qui ne respectent pas aussi les femmes de chambre. Donc, tout ça, c'est notre combat pour être dans la dignité. C'est pour ça que nous sommes à 4 mois et demi de grève pour dénoncer ça.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi. Vous venez d'écouter un reportage donc sur les femmes de chambre en grève de l'hôtel Ibis au Batignolles. Voilà.
Et vous pouvez, qui sont donc à leur 180e jour de grève, et vous pouvez les soutenir sur Pau Solidaire. Donc c'est un site internet qui va vous permettre de donner de l'argent pour leur caisse de grève. Et vous tapez gréviste Ibis Batignolles. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la CGT HPE. Voilà.
Et donc, on enchaîne avec un petit point sur le local avant l'interview, sur les quelques moments forts du mouvement.
Oui, un petit point qui permet juste d'avoir un aperçu en tête de ce qui s'est passé à Lyon là depuis la mobilisation. Donc, deux grosses... Alors, en dehors des manifs, hein, qui étaient évidemment régulières et suivies. Donc, avant les vacances, il y a eu quand même deux actions de blocage conséquentes. Une toute la matinée du port Édouard Herriot et du dépôt pétrolier, qui était en même temps qu'un blocage du dépôt TCL de Vaux-en-Velin, qui s'est suivi d'un autre blocage qui a été celui du rectorat. Et puis depuis les vacances, on a eu une action de Art en Grève, qui est un nouveau groupe qui s'est constitué à Lyon, qui allait un peu perturber la belle biennale d'art contemporain à Lyon, qui sont dans les anciennes usines...
Fagor,
tout à fait.
C'était pas marqué sur ta...
Bon, ils sont donc infiltrés dans l'exposition pour distribuer un certain nombre de tracts pour dénoncer justement cette ambiguïté de la biennale qui se veut d'un côté hyper pro... hyper social, hyper à l'avant-garde politique de l'art, et d'un autre côté qui est financé de A à Z par la Fondation Total, donc petit problème. On a eu aussi le mardi 31 décembre, il y avait eu, donc c'était longtemps, à Carrefour, un rassemblement appelé par la CGT devant le Carrefour Givor pour dénoncer les conditions de travail. Ça s'était mal passé, il y avait des tensions physiques entre des salariés qui étaient anti-grévistes qui sont allés empêcher et qui sont pris physiquement aussi aux syndicalistes, plus l'intervention policière qui avait été appelée par la direction. Et donc pour réagir face à ça, pour aussi dénoncer la stratégie de la division de la part de la direction, il y a un autre appel qui a été lancé par la CGT Carrefour le 17 janvier à 10h devant le Carrefour de Givor toujours.
Avec la Confédération paysanne. Oui. Également. Ah
oui. C'est des petits déj qui sont d'ailleurs très bons. Du bon pâté, du bon fromage, on vous conseille d'y aller.
Je sais plus quoi dire.
T'as fini ton sujet?
Oui, je finis. Du coup, qu'est-ce qu'on peut. Et aussi, le 10 janvier, aussi une action de blocage d'un dépôt de cars de Transdev à Villefranche-sur-Saône qui a très bien fonctionné avec une cinquantaine de personnes. Et voilà, là aussi la manifestation du 9 janvier qui était quand même assez
vivante,
assez dynamique, assez déterminée. Et on espère que ça sera pareil demain.
Et mercredi et jeudi.
Eh oui, puisque c'est trois jours de mobilisation nationale. Alors, on enchaîne donc avec cette interview. Donc, on a ici présent deux camarades de la CGT Vinatier. Alors, présentez-vous, allez-y.
Je vais commencer. Donc, bonsoir. Moi, c'est donc Mathieu. Je suis infirmier de profession. Voilà. Et donc, je travaille sur le Vinatier depuis déjà quelques années. Et je suis donc à la CGT.
Marc, je suis des services techniques. J'ai été secrétaire du syndicat. Mathieu m'a remplacé il y a quelques années déjà. Et je suis militant CGT et responsable syndical.
Ok, merci. Merci d'être là déjà. Alors, vous êtes en grève depuis le 5 décembre. Vous êtes toujours en grève. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulement de cette grève, du taux de grévistes depuis le début au Vinatier?
Alors nous on a commencé la grève donc le 5 décembre, il faut savoir qu'on l'a préparé un mois et demi à l'avance en passant un petit peu dans toutes les unités, en essayant de faire qu'il y ait des AG qui puissent prendre, ce qui a plutôt bien marché. On a donc commencé par une grosse AG qui a voté une grève reconductible à partir du 5 pour le retrait pur et simple de la réforme, on s'est pas posé de questions. On a essayé de mettre en place un piquet de grève qui a plus ou moins marché au début, mais qui petit à petit s'est effrité. Et au niveau des mobilisations, on va dire que les grosses journées d'action, on a du monde du Vinatier qui se mobilise. On a quand même des grévistes tous les jours. Et par contre, au niveau des taux de grévistes, nous on a la spécificité d'être dans la santé et avec la joie d'avoir les assignations, ce qui empêche la majeure partie de nos collègues de faire grève. Tout simplement parce qu'il faut assurer le service minimum et le suivi des patients. Et du coup, on est assigné. En gros, on peut pas faire grève. Donc, on a des chiffres qui oscillent entre 400 grévistes, par exemple, pour le 5. Et je vais vous prendre les chiffres qu'on a de la dernière journée, grosse journée de grève, de la semaine dernière, où on était 93, par exemple. Sauf que je remets encore un tout petit dernier bémol, c'est que dans la santé aussi, les chiffres sont pris le matin, alors qu'on a des postes de travail le matin, le soir et la nuit. Donc ces postes-là ne sont pas toujours comptés dans les chiffres de grévistes.
Alors avant de parler des raisons de la grève au-delà de la réforme des retraites, est-ce que vous subissez des pressions de la part de la direction des Vinatiers
par rapport à la grève? Alors des pressions, elles sont très diffuses, mais elles existent par rapport au travers de l'encadrement. D'une part, la direction, c'est-à-dire que c'est une machine infernale un peu qui se met en route. Dans les hôpitaux, c'est pas spécifique à l'hôpital du Vinatier, c'est dans tous les hôpitaux publics ou participants au service public. Il y a la notion de privation du droit de grève à travers la notion du service minimum. Alors certes, bien sûr, le service, il doit être assuré parce que c'est pas des machines qu'on a avec nous, c'est des patients ou des résidents dans les EHPAD, mais c'est vrai que les directions se font une joie de casser la grève à travers tout ça. Et nous, on dit au personnel, vous êtes assigné, et bien le meilleur moyen de vous battre et d'être compté comme gréviste, c'est de demander la levée d'assignation. Nous, on est encore un établissement où la levée d'assignation peut se faire, et un agent qui demande sa levée d'assignation, même si au final elle n'est pas levée, est comptabilisé comme gréviste. Donc c'est très important. La bataille bataille, elle doit démarrer du début. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la grève, il y a la manif, mais il y a tout ce qui est avant, tout ce qui est après, tout ce qui est pendant. Et il faut surtout être actif, c'est-à-dire que mettre la pression sur la direction. Eux, ils nous mettent la pression, hein. Ils nous font culpabiliser, tout ça. Nous, il faut qu'on leur mette la pression. Et il y a des équipes qui y sont arrivées, hein. C'est-à-dire que, parce que la direction tente des coups de force. Moi, j'ai souvenir d'une équipe des urgences au Vinaquier qui n'avait pas été assignée. La direction croyait qu'ils allaient venir tranquille parce que culpabilisés de laisser des patients seuls. Ils ne sont pas venus ou ils sont venus une heure après, deux heures après, trois heures après. Et c'est le directeur des soins qui a été obligé de se coltiner les urgences avec d'autres chefs des cadres, etc. Et ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter. Hein. C'est vraiment la meilleure réponse qu'on peut apporter.
Alors, la réforme des retraites, évidemment, elle vous impacte comme la quasi-totalité des salariés de France, particulièrement dans le secteur de la santé, mais vous n'êtes pas uniquement en grève contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation des Vinatiers et expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, ce qui s'y passe?
Bah, je veux bien commencer. Donc, sur le Vinatier, ça fait quand même plusieurs années hein, qu'on se prend des coups dans la tête. Hein. On a des unités qui ferment, on a des suppressions de postes. Ce qu'il y a, c'est que là, on a un nouveau directeur donc, qui est arrivé il y a un an et demi à peu près, ou deux ans, enfin bon, peu importe, et qui est venu avec un plan d'économie à lui, voilà, fait maison. En gros, il est arrivé en disant, bah, au Vinatier, moi, je vais mettre en place un plan d'économie de 10 millions. Donc 10 millions d'économies, c'est pas rien hein, quand même, surtout,
c'est énorme,
surtout pour un hôpital comme le nôtre. Hein. Donc là, on a des grosses attaques qui arrivent. Hein. Il faut savoir que, par exemple, on a déjà supprimé 160 postes sur le Vinatier en 3 ans. Que là, on vient d'avoir l'annonce pour l'année qui vient et l'année suivante de la fermeture de 3 unités. Donc c'est des unités pour des patients de longue évolution. C'est des patients un petit peu chroniques qui sont là depuis des mois, voire des années, voire plusieurs années. Et donc il y a ces 3 unités qui devraient fermer, ça représente 75 lits. Ils veulent fermer une unité qu'on appelle ITAR, c'est une unité qui accueille des patients avec polyhandicapés plus une pathologie psychiatrique ajoutée. Donc c'est des gens en fauteuil roulant qui peuvent pas bien se déplacer, qui en plus ont une maladie psy et en plus un déficit mental. Donc ils veulent fermer cette unité, ça représente 12-13 lits. Ils veulent fermer aussi 5 lits pour des patients autistes et déficitaires de manière assez importante. Ça, ils veulent fermer 5 lits, dont aussi 2 chambres de soins spécialisés. Ils veulent fermer nos 3 foyers, 2 foyers sur l'établissement aussi. Donc des foyers, c'est des lieux de vie pour permettre aux gens de se réinsérer. Il faut savoir que les ULE, les unités dont je parlais avant de longue évolution, c'est aussi des unités pour permettre aux gens de se réinsérer, en tout cas à l'extérieur, dans une autre structure. Donc ça, ils veulent le balayer, et en gros, c'est le plan de 10 millions. Hein. Pour faire simple, ça représente 10 millions. C'est plus de 100 postes, 100 à 120 postes qui sont menacés aussi à travers ça. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un peu...
Non, mais
ça fait un peu...
Bien.
Là, on balance la liste. Hein. Mais on a aussi toutes les structures à l'extérieur de l'hôpital. Hein. En psy, on travaille quand même beaucoup à l'extérieur. C'est même la majorité de notre boulot. Hein. Il faut savoir qu'il, depuis plusieurs années, c'est la même chose. Hein. Ils nous ferment les centres médico-psychiatriques pour avoir des consultations à l'extérieur. Ils ferment les hôpitaux de jour. Oui, quand il y en avait 2, ils les fusionnent. Donc ça fait qu'il y a des gens qui doivent se taper 1h20 de trajet pour pouvoir avoir un rendez-vous. Avec les suppressions de postes qui vont avec. Enfin voilà, ce qui se passe sur le Vinatier, c'est une situation générale au niveau national. Tous les hôpitaux psy, c'est la même chose. Hein.
Alors justement,
pour ajouter à cela, globalement, c'est qu'ils privent les personnels de leur outil de travail. En fermant des unités, en fermant des foyers, en fusionnant des structures grosses, ils privent les personnels de leur outil de travail. C'est-à-dire qu'ils ont aussi supprimé les familles d'accueil, par exemple, et on a des tas d'exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en psychiatrie, les personnels, les médecins, les infirmiers, les équipes, n'auront plus beaucoup de solutions à trouver pour les patients. C'est-à-dire qu'avant, il y avait de multiples solutions qui s'offraient à eux. Chaque patient pouvait être orienté en fonction de sa pathologie et de ce qui était repéré, etc. Ce sera fini aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans un carcan et qui va enfermer. Ce sera un carcan budgétaire, mais qui enfermera y compris la pratique soignante, la pratique médicale dans ce carcan budgétaire. Et ça, c'est très grave.
Alors justement, bon, là vous êtes en grève, vous l'avez déclenché contre la réforme des retraites, mais également contre ces dégradations considérables de vos conditions de travail. L'année dernière déjà, vous vous êtes mobilisé à plusieurs reprises dans le cadre d'un mouvement qui était à la fois départemental, régional et même national. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ?
Alors il y a eu plusieurs mouvements l'année dernière. On va dire qu'il y a eu un mouvement spécifique de la psychiatrie qui a démarré au niveau national à travers des organisations syndicales dont la nôtre et à travers aussi le collectif du printemps de la psychiatrie qui permettait qui regroupait aussi des assos de patients, des associations de familles. Et il y a un mouvement donc, qui a démarré, c'était il y a un an et demi, avec des journées de grève nationale. On s'est rassemblés devant l'ARS, on a eu du soutien d'ailleurs Interpro, hein, parce qu'il y a eu un appel de toute la région pour que l'Interpro vienne nous aider, vienne nous soutenir, nous la PSI, mais aussi nos collègues des EHPAD, de la santé. Ce mouvement-là, je pense qu'il a fait du bien, l'air de rien, parce que ça a permis quand même aux salariés, et puis nous sur Lyon, les collectifs de patients, il y en a très très peu, donc c'est un peu dommage. Mais par exemple, à Paris ou dans d'autres départements, ils ont vraiment pu travailler ensemble, ce qui est plutôt bien. Et il y a eu aussi, en parallèle à ça, quand même le mouvement des urgences, qui a quand même qui est toujours important, hein, d'ailleurs, hein, le mouvement des urgences qui a démarré spécifique, mais vraiment spécifique au service d'urgence, et qui, à travers les mois qui se sont écoulés, s'est transformé en un vrai mouvement aussi général de tous les salariés de notre secteur, et de que ça aille avec de l'ouvrier à l'aide-soignante, à l'infirmière, au médecin, enfin voilà, tout le monde est plus ou moins quand même rentré dans la mobilisation, ce qui a fait qu'on a eu quand même des grosses mobilisations d'ampleur là en novembre et aussi en décembre en parallèle à la réforme des retraites, hein, parce que la santé, c'est la retraite, c'est la même chose, hein, c'est la protection sociale. Donc nous, on se sent bien impliqué, en tout cas au niveau de la taxe sur les retraites, parce qu'on le vit au niveau de la sécurité sociale. Hein. Quand on parle au niveau des hôpitaux, quand le gouvernement a mis en place les enveloppes fermées pour le financement de la Sécu, c'est-à-dire que la Sécu ne pouvait plus évoluer au niveau des besoins, mais elle évolue en fonction de ce que veut bien mettre le gouvernement à l'intérieur. On a senti la pilule passer, hein, et on la sent toujours aujourd'hui. La réforme des retraites, c'est exactement la même chose. Hein. Ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une enveloppe fermée et on se débrouille avec. Et nous, on connaît vraiment les dangers, les dégâts que ça peut faire pour la population. Nous, on le voit dans nos prises en charge, dans nos plans d'économie qui tombent tous les ans, parce que là, on a eu une grosse grève au niveau de la santé. Il y a eu des annonces du ministère qui ont donné une prime pour les urgences et une petite rallonge de budget. Mais sauf que la petite rallonge de budget, bon, c'est qu'il y a quelques milliards. Ça couvre même pas les économies qu'ils nous demandent de faire, tout simplement en mettant l'enveloppe fermée de la Sécu.
Ouais, moi je rajouterais simplement la question à ce qu'a dit Mathieu, la question de la pédopsie. C'est-à-dire que la pédopsie qui s'est vraiment mobilisée, qui s'est formée en collectif et un collectif très large avec toutes les catégories à l'intérieur et qui a permis de résister face à la politique de la direction et de bien résister. Donc voilà, il y a des batailles. Nous, c'est vrai qu'on se situe en tant qu'organisation syndicale dans un soutien à tous ces personnels qui veulent s'organiser ou s'auto-organiser, parce que le syndicat, c'est aussi donner des outils au personnel pour s'exprimer, et ça, c'est très, très important. Et la question aujourd'hui des hôpitaux, d'une manière générale, mais on peut dire des EHPAD, de l'action sociale, des cliniques privées lucratives ou non lucratives, c'est que c'est des vraies cocottes minutes. Alors, bien entendu, la grève, c'est pas comme à la SNCF ou à la RATP. Elle se voit pas forcément. Nous, il y a des établissements qui ont des services qui sont en grève depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois. Mais avec ce qu'on disait tout à l'heure, les assignations, eh bien, c'est une grève invisible. Donc nous, on dit aux salariés de la SNCF et de la RATP, vous avez la chance de pouvoir profiter de votre grève et de la faire voir et de la montrer et de la démontrer. Continuez, parce que nous, on est privés dans la santé du droit de grève. Et on est privés de parole, quelque part. Parce que le gouvernement a beau dire, il n'y a pas besoin de la grève pour qu'on négocie, il n'y a pas besoin de la grève. Il démontre le contraire. Notre profession, notre secteur démontre le contraire. C'est-à-dire que sans une grève visible, dure et qui amène y compris des nuisances pour les usagers, eh bien, il n'y a pas de réponse du gouvernement.
Ouais, la seule petite réponse qu'il y a eu, c'est une prime supplémentaire l'année dernière, c'est-à-dire peanuts par rapport aux revendications.
Ah bah oui, il y a eu une petite prime de 100 euros pour, enfin un petit peu moins de 100 euros pour les personnels des urgences. À savoir que, par exemple, les personnels des urgences, par contre, en psychiatrie, n'y ont pas le droit. Voilà, on est un petit peu... Apparemment, on fait pas du soin. Enfin bon, en tout cas, on travaille pas comme les autres. Enfin, je sais pas dans quoi ils nous casent, mais par exemple, nos collègues des urgences du Vinatier, ils ont pas le droit. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une petite rallonge budgétaire. Alors, je sais plus si c'était 60 milliards ou non 60 millions. Ouais. C'était 60 millions, je rêve. Les 60 milliards, c'est ce qu'on aimerait bien avoir.
C'est ce que le CAC 40 a eu comme dividende en 2019.
Voilà, c'est ça,
pour 60 milliards, mais vraiment, c'est pile poil, c'est ça.
On a eu cette petite rallonge, mais comme je disais, ça couvre même pas les économies qu'ils nous demandent pour Devinva. La petite rallonge, c'est juste, on vous allège un tout petit peu ce qu'on va vous prendre, mais dans tous les cas, on va vous en prendre beaucoup. Donc.
Non, mais dans les hôpitaux, de toute façon, c'est pas de primes qu'il faut, c'est d'augmentation de salaire, de revalorisation de grille salariale, c'est très, très important. Donc les jeunes professionnels commencent dans la misère, ils sont à peine au-dessus du SMIG, c'est pas normal. Donc voilà, c'est toute cette bataille qu'il faut mener, la question des salaires, la question du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat c'est tronqué, parce que souvent, sous forme de pouvoir d'achat, on met les prix, nous c'est l'augmentation des salaires. Et l'augmentation des salaires, pour notre secteur, c'est très important, parce que l'augmentation des salaires, c'est des cotisations sociales en plus pour la sécurité sociale, pour les régimes de retraite et tous les régimes collectifs. Et c'est cela qu'on défend. C'est ce partage des richesses à travers les salaires, mais à travers les cotisations sociales. C'est ce qui permet donc à notre société de garder une cohésion. Donc voilà, nous on est bien placés pour dire oui, cette bataille qu'il y a aujourd'hui sur les retraites, elle est beaucoup plus large que la simple question des retraites. Parce que pour avoir une retraite, il faut d'abord avoir un emploi. Et un bon emploi. Et il y a combien de salariés qui commencent avec des emplois complètement minables et avec des emplois très mal payés, précarité, etc. Mais pour avoir une bonne retraite, il faut déjà avoir un bon salaire. La retraite, c'est la dernière étape. Et aujourd'hui, il y a combien de salariés qui terminent au SMIG ou presque au SMIG? Donc on voit bien que cette bataille, elle est beaucoup plus large que la simple question des retraites. C'est vraiment la bataille sur le partage des richesses.
Bien sûr. Et d'ailleurs, tu voulais poser une question ?
Non.
Particulièrement dans le secteur de la santé, il y a un turnover important. Il y a beaucoup de jeunes salariés, effectivement, qui ont l'air de partir assez vite, de quitter ce secteur. Vous le vivez aussi au Vinatier ?
On le vit comme dans tous les hôpitaux, comme dans toutes les cliniques, comme dans toutes les EHPAD. Hein. À l'heure actuelle, les conditions de travail, mais quand je dis conditions de travail, c'est même pas que le travail est dur, c'est les façons dont on nous fait travailler, dont les directions, dont les politiques du gouvernement nous amènent à faire notre travail, que les gens sont dégoûtés. Les gens sont dégoûtés parce qu'ils se reconnaissent pas dans ce qu'ils font. Il y a plus de sens. On prend par exemple une collègue infirmière qui arrive aujourd'hui au Vinatier, je suis désolé, mais quand elles sont deux avec un collègue aide-soignant ou une collègue aide-soignante pour s'occuper de 25 patients, qu'on va en voir deux ou trois dans toute la journée, toute notre journée de travail, parce que c'est les deux ou trois qui vont le plus mal et que tous les autres, si on leur a dit bonjour, déjà on est content. Enfin, les gens, ils sont dégoûtés, ils sont écœurés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent un an, deux ans, trois ans, et puis ils partent. Hein. C'est même pas ils partent pour trouver autre chose dans un autre hôpital ou quelque chose. Non, ils quittent leur métier. Ils quittent leur métier. On est en train de créer des gens qui sont dégoûtés du travail pour lequel ils sont formés, pour lequel ils ont voulu travailler. Ils ont voulu prendre soin. Enfin, prendre soin, c'est un choix. C'est vraiment un métier qu'on choisit, qu'on fait. En plus, quand même, je suis désolé. Désolé, à l'hôpital, il y a une époque où il y avait du travail. L'air de rien, c'était un domaine où on était sûr d'être embauché. Maintenant, on a des mauvaises conditions de boulot. On nous casse nos outils de soins. On nous ferme des unités. On a notre salaire qui est gelé. On voit les collègues qui finissent à 50 ans complètement pétés. Et quand je dis pétés, mais c'est des gens qui ont la santé, mais complètement détruites par le travail. Et les jeunes collègues, quand ils voient ça, ils se disent moi je veux bien, mais à un moment je dis stop et je vais penser un petit peu à moi.
Hein. Bon, revenons à la grève un peu, puisque ça c'est joyeux la grève, normalement, un peu plus joyeux que le constat terrible de ce qui se passe dans le secteur hospitalier. Donc vous êtes en grève là toujours, est-ce que vous avez réussi un peu à vous mettre en lien avec d'autres secteurs en grève, parce que vous n'êtes pas les seuls, il y a les cheminots.
Bien sûr. Ouais. Alors nous, c'est notre but. Alors particulièrement au niveau du syndicat du Vinatier, hein, c'est vraiment l'essence même de notre syndicat. Mais c'est vrai que c'est le but au niveau de la santé, de l'action sociale sur l'ensemble du département, voire de la région, parce qu'on fonctionne bien avec aussi la région. La question du lien, elle existe avec la SNCF, avec la chimie. La question du lien existe avec les salariés du commerce. On l'a vu donc à travers l'action que j'y vois. Et donc, on voit que de toute façon, nous, on est certain que c'est pas chacun dans son coin qu'on va gagner, que c'est bien tous ensemble, en unissant nos forces, que l'on va arriver à faire péter ce carcan. Et il va falloir qu'on arrive à le faire péter. Nous, au niveau de la santé, il y a des salariés qui l'ont dur, parce qu'il y a eu des réformes il y a quelques années où il y a des salariés qui avaient le choix de passer en catégorie A ou de rester en catégorie B. Alors, c'est, pour certains, ça ne va pas parler grand-chose. Mais en fait, en passant en catégorie A, ils augmentaient un peu de salaire, et en restant en catégorie B, ils gardaient leur possibilité de départ à 57 ans. Ils ont choisi de rester en catégorie B pour certains, et en partant à 57 ans. Eh bien, aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme, ils se font avoir. Et ils l'ont donc et ils l'ont dur, ils l'ont mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect vis-à-vis des engagements qui sont pris par les pouvoirs publics, sur des reclassements qui ont lieu, même qui sont contestés, mais qui ont lieu. Donc, c'est cette bataille que nous, on mène dans notre établissement, mais qu'on mène sur l'ensemble du département, en lien avec l'Interpro, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on va gagner. Et ce qui est très important, c'est que toutes les manifs, il y a beaucoup de manifs qui passent devant l'Hôtel Dieu. Et à chaque fois, on s'arrête devant l'Hôtel Dieu, parce que la question de l'Hôtel Dieu, c'est essentiel. C'est vraiment la Macronie type. C'est-à-dire que c'est Colomb qui a transformé l'Hôtel Dieu en ce qu'il est, avec une politique de donner cet hôpital aux capitalistes, hein, parce que c'est devenu un temple du capitalisme, comme certains l'ont marqué. Ouais. Et donc là, on est vraiment dans ce que fait la Macronie sur la question des retraites. Elle l'a fait au niveau de la question de la santé, au niveau de la question d'un hôpital. Donc cette bataille, nous, on l'amène et on a des arguments pour l'amener.
Alors, et du coup, quelles sont les perspectives là immédiates? Vous avez reconduit, il me semble.
Alors, on avait une assemblée générale en début d'après-midi. Oui, on a voté la reconduction de la grève donc jusqu'à vendredi, donc déjà pour les trois journées d'action là, qui arrivent. Et on a une nouvelle assemblée générale ce vendredi où on décidera de la reconduite de la grève. Et, à mon avis, il y a des chances qu'elle soit reconduite. Hein.
Est-ce que vous avez une caisse de grève ?
On vient d'en monter une la semaine dernière pour les salariés déjà du Vinatier.
Ouais.
Donc suffit de nous de contacter à la CGT du Vinatier, soit par mail, et puis on vous donnera les infos.
Et puis d'une manière générale, il y a une caisse de grève qui est organisée par l'UD à travers la Confédération, parce que aussi c'est ce combat-là qu'on mène un peu sur tout le territoire.
Oui, de toute façon, il y a des caisses de grève pour les salariés de l'éducation nationale de Vanvelin, pour ceux de Pardieu, les cheminots de Pardieu, les cheminots de Perrache. Donc il y en a une pour les vinatiers, soutenez bien les grévistes en reconductible, c'est très important. Si vous voulez reconnaître nos camarades des vinatiers, peut-être qu'on pourrait un peu parler de votre camion, de votre joli camion dans les manifestations, puisqu'il est quand même assez reconnaissable et on aime bien le voir.
C'est-à-dire que oui, il est reconnaissable, et surtout quand il n'y est pas, on sait qu'il manque quelque chose. On l'a vu samedi, on avait perdu les clés, il n'y avait pas le camion, il y avait plein de camarades désemparés. Alors nous, on en est assez fiers de ce camion, mais les militants et puis les salariés du département, ils ont l'habitude de le voir des fois aux portes de leur établissement. Des EHPAD, et là il n'y a pas de question santé, question cheminot, question il va où il peut, où il veut,
où il y a besoin, où il y a besoin parfois aussi. Voilà. Alors comment on le reconnaît?
C'est pas compliqué, il est tagué de partout, complètement à l'arrache, avec de la peinture dégoulinante à la Aurore Show un petit peu, avec de la rouille sur le dessus, un devant poké, on le reconnaît facilement, c'est plus pourri. Hein.
Et donc les clés ont été retrouvées, donc on va pouvoir le retrouver dès demain à la manif.
Elles ont été refaites, mais ce camion, il a aussi une histoire vraiment de solidarité, parce qu'il sert aux sans-papiers,
à l'Amphizède notamment, il a beaucoup aidé.
Donc à plein d'associations, c'est un camion de lutte, de résistance, c'est un camion de solidarité.
C'est pas compliqué, s'il y a des collègues qui militent, qui ont besoin du camion, il est là.
Voilà, donc si vous voulez aller les voir, vous repérez le camion et vous leur faites bravo.
Et on vous remercie beaucoup d'être venu. On fait rapidement un petit agenda parce qu'il nous reste un peu moins d'une minute. Alors déjà, pour annoncer la manif demain qui partira de la place Jean Jaurès à
11h30. Il y aura ensuite une AG féministe donc contre la réforme des retraites à 18h.